Et maintenant, on va parler des feux sonores, un sujet qui me fascine et qu'à chaque fois, je réalise qu'il n'y a pas de feux sonores dans les rues, je suis découragée. Donc là, on va pouvoir en parler avec Juliane Perrault, qui est à ma gauche. Et on va retrouver René Binet, qui est au téléphone à Québec. Mais tout d'abord, Juliane, bon, juste pour bien dire les choses, mais vous êtes consultante en accessibilité universelle. Vous allez pouvoir nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et René Binet, vous êtes directeur du regroupement des personnes handicapées visuelles de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches. Et là, il y a même un code, il y a même des chiffres à côté. Moi, j'avais jamais vu ça. Fait que c'est comme le RPHV, trait d'union, 0312. Ça, c'est comme important, le 0312.
Ben, en fait, d'abord, bonjour.
Oui, bonjour.
Et ben, le 0312, en fait, c'est le code pour la région 03 étant la région de la capitale nationale, les 12
Chaudière-Appalaches. OK, OK. Donc, c'est pour ça. Parce que là, moi, je me dis, j'ai jamais vu un code, là. Donc, je me demandais spécifiquement. OK, donc là, on va parler d'un projet de recherche par rapport aux feux sonores que, dans le fond, vous avez collaboré. Moi, j'aimerais savoir, parce que Juliane, on s'était parlé par Messenger et vous n'avez pas d'handicap visuel.
Non, effectivement.
Donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à, tout d'un coup, à vous impliquer dans un organisme qui œuvre pour les personnes en situation de handicap visuel?
Oui, mais en fait, ça fait depuis 2012 que je m'intéresse à l'accessibilité universelle. Mm-hmm. Donc, j'avais été préposée aux bénéficiaires par accident, là, un peu grâce à une annonce sur Internet.
Ah, oui.
Et j'avais beaucoup apprécié mon expérience. J'ai vraiment découvert, en fait, que c'était l'environnement qui handicapait la personne beaucoup plus que sa condition.
Mm-hmm.
Et là, j'ai voulu devenir chasseuse d'obstacles.
Ah ouais?
Oui, donc en fait, pouvoir appliquer ça, pouvoir améliorer l'environnement pour faciliter les activités quotidiennes de toute une panoplie de la population.
Mm-hmm.
Donc j'ai travaillé plus du côté en tourisme, en loisirs,
ouais.
Et ensuite au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain.
Mm-hmm.
Et donc c'est là que j'ai découvert davantage le handicap visuel. J'étais plus au niveau de la gestion, mais j'ai quand même touché à beaucoup de dossiers, incluant les signaux sonores.
Ouais.
Et voilà ce qui m'a amenée là. Je trouve que c'est vraiment un angle très intéressant. Puis en fait, quand on s'intéresse à l'accessibilité pour cette partie de la population-là, on améliore aussi la qualité de vie
de tout le monde.
De la majorité, oui, c'est ça.
Mais en fait, moi, c'est ça que je trouve qui est vraiment le plus important quand on parle de l'accessibilité universelle, ben, c'est qu'on se rend compte que même si moi j'ai un handicap visuel, je n'ai pas un handicap de mobilité, je peux marcher avec les, tu sais, je peux autant avoir les escaliers, une rampe, mais finalement je me rends compte que je vais bénéficier de la rampe quand j'arrive avec mon chariot d'épicerie parce que je dois avoir un chariot parce que je peux pas traîner 4 sacs. Quand on a un bras qui est pris par la canne blanche. Là. Donc, c'est pour ça que je trouve que l'accessibilité universelle, ça parle à tout le monde, finalement. Et vous, René Binette, vous avez aussi quand même un parcours assez impressionnant, mais vous avez une situation d'handicap visuel, par contre.
Oui, absolument. Moi, je suis... dans notre langage, on dit que je suis un fonctionnellement aveugle. Autrement dit, je dis le braille. Oui. Je travaille avec une synthèse vocale et le braille au niveau de l'ordinateur. Et voilà.
Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer avec le regroupement?
Ben, en fait, mon parcours au niveau si on parle de mon parcours là, au niveau des personnes aveugles, en fait, j'ai commencé en 1991 à l'Université Laval comme personne ressource.
Mm-hmm.
À ce moment-là, on mettait sur pied le local de travail adapté. Et là, par la suite, ben, de fil en aiguille, j'ai aussi, par intérêt personnel, et aussi, je pense qu'on était dans le temps pour le faire, j'ai travaillé à l'initiation des étudiants qui fréquentaient qui fréquentaient l'université à ce moment-là. J'ai travaillé à les initier sur Internet.
Ah oui!
Absolument.
Ah, OK, OK. Donc, c'est une personne ressource. Donc, vous n'étiez pas comme un intervenant là, qui venait aider l'étudiant dans son processus scolaire, mais vous étiez un peu en parallèle là, parce que vous étiez aidant au niveau technique.
Oui, technique. Puis en fait, comme personne ressource, j'étais responsable du local de travail adapté.
OK.
Il y a des formations sur Internet que je vous ai parlé tout à l'heure. Puis aussi, j'ai mis sur pied. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a... En tout cas, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'on est venu me chercher. J'ai mis sur pied, le service de lecteur bénévole à l'Université Laval en 1994-95.
Donc, c'est le regroupement qui est venu vous chercher pour que vous soyez directeur.
Oui, absolument. Bien, j'ai me cherché dans le sens qu'on m'a contacté. J'ai fait une entrevue. Et ce que j'en ai compris, c'est de là qu'on est venu me chercher.
Ah, OK. Mais en même temps, je trouve que c'est super intéressant de voir, tu sais, le parcours, la trajectoire. Tu sais, moi, j'aime tout le temps ça, savoir de dire, « Ah, mais qu'est-ce qui fait que maintenant, vous êtes à cet endroit particulièrement? » Et le regroupement, là, parce que, bon, qu'est-ce que c'est exactement le regroupement? On entend regroupement, on dirait qu'on voit plein d'organismes dans le regroupement, finalement. Donc, qu'est-ce que c'est le regroupement?
Ben, en fait, le RPS du 032, le regroupement des personnes handicapées visuelles de Québec, c'est un peu l'équivalent pour les auditeurs de Montréal, du RAM à Montréal, ou les autres aussi s'appellent le regroupement.
Okay.
Mais dans le fond, on est une association de base, on regroupe des personnes qui ont une déficience visuelle.
OK, ben je pose déjà une petite colle parce que là, vous avez dit à Montréal, le RAM, qu'on connaît bien, et on sait qu'il y a le RAC à Québec. C'est quoi la différence?
Ben en fait, d'abord, avant de s'appeler le regroupement des personnes handicapées visuelles région 0312, c'était le RAC section Québec, affilié au RAC, le regroupement provincial, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec.
Oui.
Qui existe toujours, dont je suis le président.
Donc, c'est ça. Ben, c'est ça. Donc, vous êtes affilié. C'est comme une branche qui communique. Oui. Là.
Exactement.
OK, OK. Et là, on parle des feux sonores. Moi, je trouve ça super intéressant parce que lorsque je me suis retrouvée à faire mes cours avec l'Institut Nazareth, il y a trop de lettres, l'Institut Nazareth et Louis Braille, et que j'avais mes cours de mobilité, et là, tout d'un coup, je me rendais compte, ben oui, mais ils sont où mes feux sonores? Parce que moi, j'avais une conception qu'il y avait des feux sonores partout. Moi, je pensais qu'il y avait des feux sonores.
C'est vrai, d'ailleurs.
Ben oui. Et à ce moment-là, j'ai su que non, là, des feux sonores, il y en a vraiment finalement très peu. Et là, mon intervenant faisait le tour avec moi autour. Et là, c'est là qu'il me disait, prends cette rue-là, prends celle-là. Parce que justement, il n'y a pas de feu sonore. Et là, oui, ici, miracle, il y en a un. Mais là, ce que j'apprenais, c'est qu'il y en avait un parce qu'il y avait eu des accidents. Donc, on dit, ben oui, mais là, on ne veut pas se rendre là. Là, c'est quoi la blague de dire qu'on attend qu'il y ait des accidents pour dire on va mettre un feu sonore? Moi, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas des feux sonores partout? Hein? Je pense
d'ailleurs, c'est une de nos revendications, hein, c'est qu'éventuellement, dans un monde idéal, il devrait y avoir des feux sonores partout où il y a des feux de piétons. L'analogie que je fais souvent, c'est si on prend les téléphones intelligents, que ce soit iPhone ou Android, par défaut, lors de leur fabrication, on intègre une synthèse vocale.
Oui.
Alors, pourquoi pas, au niveau des feux de piétons, qu'on n'intégrerait pas par défaut des signaux sonores?
Ceci étant dit, en
date d'aujourd'hui, de la manière que ça fonctionne, c'est que un signal sonore, selon la norme du ministère des Transports, ça doit être recommandé par un spécialiste en orientation et mobilité d'un centre de réadaptation qui, lui, fait une analyse avec l'usager pour voir s'il y a besoin d'en installer un ou non selon le besoin, selon l'intersection.
Et est-ce qu'à ce moment-là, justement, c'est simple comme ça? Là? C'est l'intervenant qui dit oui, ça lui prend 8 feux sonores.
Bien, actuellement, au moment où l'on se parle, c'est que l'intervenant va faire une analyse de l'intersection et va recommander à la ville, dire ben, à cet intersection-là, selon différents critères, à ce moment-là, ben oui, il devrait avoir un signal sonore.
Mais, justement, c'est une recommandation. Donc, ça se peut qu'au à bout de ligne, le feu sonore ne soit pas installé.
Absolument. Mais c'est une recommandation généralement, en tout cas à Québec. Ce qu'on comprend jusqu'à date, il n'y a pas eu de refus de la ville suite à une recommandation.
Ah.
Mais dans les faits, oui, effectivement, oui. Légalement parlant, c'est une recommandation. Mm-hmm. Et là, par la suite, ben, la ville obtempère, oui ou non.
OK, OK. Puis c'est qui gère ça, les feux sonores?
Ben, en fait, vous voulez dire au niveau de la ville?
Oui, parce que là, vous avez parlé du ministère du Transport, mais là, après ça, la municipalité. Je sais que ça, il y a des trucs très spécifiques au niveau de qui gère quoi, là, au niveau de la rue.
Ben, en fait, il y a deux gestions des signaux sonores. Il y a au niveau des municipalités,
mm-hmm.
et aussi au niveau du ministère, il y a des routes qui appartiennent au ministère des Transports dans la province. Et à ce moment-là, ben, c'est le ministère des Transports qui gère. Et au niveau des municipalités, ben, là, évidemment, c'est les services de transport mm-hmm. Qui gèrent ce dossier-là.
OK. Donc, vous, les recommandations, c'est à quel niveau?
C'est au niveau de la ville de Québec.
De la ville, c'est ça, spécifiquement.
Exactement.
OK.
Ouais, ouais.
Et là...
C'est probablement la même chose à Montréal. C'est la même chose à Montréal. Mm-hmm.
Que dans le fond, c'est la ville.
Oui, c'est pas géré. Qui gère l'attribution, non l'installation de signaux sonores.
Oui, c'est ça, ce serait la ville. Bon, après ça, c'est ça, comme on dit, c'est si c'est une autoroute, là, mais en même temps, il n'y a pas de raison d'aller marcher sur une autoroute. Quoique à Montréal, il y a beaucoup de trucs de ça s'est passé en dessous, au-dessus, et des fois, ben, ton trottoir passe par des embranchements d'autoroute. Je ne sais pas si vous avez ça, mais moi, ça, je trouve ça épouvantable.
Non, mais quand on parle de... Quand, évidemment, il y a, de toute façon, au niveau des recommandations, il y a des endroits, de toute façon, où, et ça, on s'entend là-dessus, autant avec les spécialistes que les municipalités, il y a des endroits où on n'installe pas, c'est trop dangereux. Mais il faut savoir qu'il y a des rues, peut-être pas des autoroutes, mais des routes, en région rurale, entre autres, ben, c'est le ministère des Transports qui gère ce qu'on appelle les directions territoriales.
Mm-hmm. OK. Et là, dans le fond, à travers la recherche, parce que là, Juliane, vous, comment vous vous êtes impliquée dans ce projet-là?
Oui, donc, en fait, ça fait un an à peu près que je travaille avec le RPHV sur le dossier des signaux sonores. Donc, d'abord, j'avais fait certaines recherches là, pour pouvoir comparer à l'international aussi qu'est-ce qui se faisait.
Mm-hmm.
Mais sinon, le déclencheur a été qu'on constatait que la ville disait qu'il n'y avait pas d'enjeu au niveau de la
sécurité?
Oui, c'est ça. Au niveau, là, finalement, les signaux sonores, tout allait bien. Ils étaient en bon état. Ils recevaient pas de plaintes.
Okay.
Donc, ils se posaient pas. Ils ne voulaient pas nécessairement pousser la recherche plus loin.
Mm-hmm.
Ils étaient satisfaits là, de cet état-là. et alors que de notre côté, on entendait des spécialistes en orientation et mobilité qui disaient qu'il y avait certains enjeux qui étaient récurrents. Il y a certains membres aussi qui en recensaient quelques-uns.
Mm-hmm.
Donc, voyant là, qu'il y avait deux pôles, on a décidé qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait aller chercher des données là, pour pouvoir trancher sur le sujet.
Ouais.
Donc, on avait d'abord essayer de collaborer avec la ville. Ils n'ont pas souhaité aller de l'avant. Ça va, ça arrive. Donc, on est allé du côté de l'OPHQ, de l'Office des personnes handicapées du Québec.
Oui.
Donc, c'est à travers cet organe-là qu'on a eu le financement.
Ah, d'accord. Et là, quand on reçoit le financement, qu'est-ce qui se passe? Là? Dans le fond, on s'en va marcher toutes les rues. Comment qu'on fait?
Ça, oui.
Oui, c'est ça.
C'est sûr que heureusement, la ville a collaboré sur cet aspect-là et nous a donné accès à leurs données, là, aux fichiers où on pouvait avoir la localisation précise de tous les signaux sonores.
Ouais.
Sinon, ça aurait été un peu plus complexe.
Et ça, oui.
Et donc, on est allé sur 190 intersections. Ça, je pense, à peu près 254 traversées.
Okay.
Parce qu'on peut avoir plus qu'un feu là, par intersection, là, bien entendu. Donc, on avait bâti une grille assez détaillée, là, mais centrée sur l'expérience utilisateur. Donc, pas juste l'aspect technique du feu, mais aussi tout l'environnement urbain autour. Donc, c'était plus vraiment ça, l'expérience utilisateur qu'on est allé évaluer sur chacune de ces traversées-là.
Mon Dieu, ça a pris combien de temps, ce travail? Vous étiez combien?
Donc, on était deux.
Deux?
Oui, c'est ça, mais ça a marché.
Mais
ça,
c'est bien deux. Fait. Dans le fond, c'est vous deux.
Oui, c'est ça, ben, exactement.
En fait, oui. On a aussi consulté certains utilisateurs.
Oui,
bien sûr.
Mais c'est sûr que c'est Juliane et moi là, qui avons fait le gros du travail.
C'est tout un travail. Mm-hmm. Et à travers la recherche que vous avez faite, bon, tantôt, René, vous avez parlé là, des recommandations. Mais avant de parler de recommandations, moi, je voulais savoir, là, c'est quoi le problème qui se passe avec le feu sonore? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réticence? Moi, j'avais déjà entendu que c'était une pollution auditive.
Ben, en fait, il y a l'argumentaire différent, je vous dirais. Il y a évidemment, oui, parce que, bon, il faut savoir que les équipements de signaux sonores qui sont à la lampe sont munis d'un dispositif de localisation qui fait en sorte que la personne handicapée visuelle peut repérer l'endroit où aller, ou appeler son feu de piéton et son signal sonore. Alors ça, bon, normalement, le système devrait être en fonction du bruit ambiant, mais c'est pas tout le temps le cas, et c'est ce qui génère là, des plaintes, entre autres, du voisinage. Mais on se le cachera pas, il y a aussi l'arrivée du virage à droite qui fait en sorte que les automobiles, évidemment, quand on met une interdiction de virer à droite, ben là, évidemment, les automobilistes ne sont pas contents, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la norme, à partir du moment où on installe un signal sonore, automatiquement, il y a une pancarte d'interdiction de virer à droite.
Ah, ouais!
C'est même à Montréal.
Mais à Montréal, il n'y a pas d'un.
C'est caduc, donc.
Il n'y a pas de signaux sonores, on ne peut pas virer à droite. Moi, chaque fois, il y a quelqu'un de l'extérieur de Montréal que je suis en auto avec. Ah, mon Dieu, c'est vrai, ici, on ne peut pas virer. Parce que c'est ça, à l'extérieur de Montréal, c'est virage à droite. Mais c'est quoi le problème avec le virage à droite, en fait, versus le virage à gauche?
Ben, en fait, le virage à droite, en fait, on a évidemment, nous, on essaie de vivre avec, mais le virage à droite, c'est qu'à partir du moment, là, si tu traverses, ben, si l'auto vire à droite, ben, à ce moment-là, il risque d'avoir une confrontation entre le piéton et l'automobiliste. Là.
Donc, c'est comme si le signal sonore, pas le signal, mais la lumière fonctionne que c'est et virage à droite et piéton qui traverse.
Oui, c'est ça.
Donc, mais c'est très dangereux.
Il y a un signal sonore. Et d'ailleurs, c'est un des critères c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un virage à droite et que le spécialiste a analysé qu'il devrait avoir un signal sonore, automatiquement, on va interdire le virage à droite au feu rouge.
Mais en fait, quand il y a le signal, je ne sais pas partout si c'est comme ça, ou tu sais, Québec, mais je sais qu'à Montréal, quand il y a l'intersection, là, c'est il n'y a personne qui bouge, là, il n'y a aucune auto.
Sans exclusive, oui.
Oui, c'est ça, tu sais, donc c'est arrêté, c'est uniquement pour la personne qui traverse. Est-ce que c'est ça à Québec ou de ce que je comprends, des fois, ils peuvent tourner quand même?
En fait, je vais laisser Juliane parler peut-être plus de Montréal parce qu'elle se le sait sûrement plus que moi, mais à Québec, nous, on a deux gestions de feux de circulation. Il y a la phase exclusive ou ce qu'on appelle le tout rouge. À ce moment-là, effectivement, les autos arrêtent aux quatre coins.
Ouais.
Mais il y a aussi ce qu'on appelle la phase concourante, ce qui fait en sorte que tu peux traverser avec le trafic parallèle, ce qu'on recommande aussi aux personnes handicapées visuelles. Alors, il y a deux façons, on a deux gestions de trafic à Québec. À Montréal, je pense que c'est un petit peu différent. On parle de feux protégés. Juliane, peut-être, élabore là-dessus.
Oui, c'est ça. Donc, on a quelques tours rouges aussi, mais c'est plutôt des feux protégés. Donc, il n'y aura pas de croisement entre un piéton et un véhicule. Donc, ça limite quand même les configurations de lumière, ce qui peut ralentir le trafic des fois. Donc, ça fait partie des raisons pourquoi des fois, ça va être moins installé. Il va avoir une certaine résistance à installer des
signaux sonores. C'est sûr que ça crée un ralentissement. On ne se le cachera pas. C'est sûr, sûr, sûr. Mais un signal sonore, c'est quelque chose quand même qu'il faut enclencher. Là. Donc, c'est pas à chaque lumière de toute la journée va se mettre à sonner. C'est si une personne vient le déclencher. Et là, je ne sais pas si c'est pareil à Québec, mais Montréal, tu dois le tenir comme un petit quelques secondes, puis là, tu entends « tuit », puis là, tu le sais qui est activé.
C'est la même chose dans la plupart des cas, sauf qu'à Québec, il faut savoir qu'à Québec, à Québec, on est quand même, en tout cas, on est quand même précurseur. C'est qu'à Québec, on a installé à l'époque, à partir de 1984, des signaux sonores qui, dans le fond, fonctionnaient de façon avec un son continu et un son discontinu, ce qu'on appelle communément un buzzer. C'est un système très simple. La personne pesait sur le bouton, le délai de 6 secondes ou de 4 secondes était là, et là, on pouvait traverser.
Ouais.
Mais est arrivée en 2003 la norme sur les signaux sonores, qui a vraiment défini que maintenant, un signal sonore doit s'installer, mais avec un équipement qui, dans le fond, fait l'alternance. Là.
L'alternance?
C'est-à-dire que le signal sonore, le son se promène d'un côté à l'autre de l'intersection, ce qui permet à la personne de s'orienter.
Oui,
bien... de guider dans sa traverse.
Bien, moi, c'est ça que j'ai été habituée, là, des signaux sonores. Tu sais, c'est vraiment, j'ai un signal... À gauche, on dirait, puis après ça, il est rendu à droite, on dirait qu'il se promène. Là.
Oui, c'est en ping-pong.
C'est en ping-pong, ouais, c'est vraiment ça. Exact. C'est comme, on dirait vraiment, puis ça me fait une trajectoire. À ce moment-là, je le sais, je reste dans ce corridor-là de son,
voilà.
Et je suis correct.
Ouais.
OK. Et dans les recommandations, là, parce que là, on veut bien là, qu'il y en ait, mais c'est quoi exactement là, les recommandations? Avec finalement ce projet-là?
Ben, je vais laisser Juliane qui va élaborer là-dessus.
J'y vais. Donc, en fait, c'est qu'on avait trouvé quand même à peu près 24% de problèmes là, durant notre évaluation. Donc, on a trouvé autant des enjeux qui étaient techniques, le panneau qui manquait parfois, le panneau d'interdiction là, pour le virage. Et on avait d'autres enjeux comme le localisateur qui était...
Désuet.
Muet ou pas assez fort.
Oh, ben oui, ben là, c'est ça. Donc, qui avait quand même une dysfonction. Là.
Exactement. On a trouvé d'autres aussi, peut-être d'un côté de la rue, le cornet fonctionnait moins bien aussi, donc moins fort à nouveau.
Ouais.
Et plein d'autres enjeux, là, des obstacles sur la chaussée, ainsi de suite. Et avec tout ça... Chaque élément en soi est peut-être pas dramatique, mais comme ça s'accumule,
oui.
C'est plus ça ici qu'on voulait mettre en lumière.
Mm-hmm.
Donc, les recommandations visent beaucoup l'amélioration des pratiques d'entretien de la ville. Donc, de pas seulement attendre qu'il y ait une déclaration d'un bris, mais d'aller vérifier eux-mêmes là, plus fréquemment et de manière un peu plus... sérieuse, l'ensemble des éléments de la chaîne de déplacement.
Oui. Bien, OK.
En fait,
oui.
Si je peux me permettre de compléter par
allez-y.
Rapport justement aux déclarations, au niveau des plaintes, dans le fond, c'est que, et ça, on a insisté beaucoup là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'il n'y a pas de plainte que le système ne fonctionne pas.
C'est ça, c'est exactement
rapport,
ça.
Dans le rapport, on le dit, là, il y a différentes raisons pourquoi les gens ne portent pas plainte.
Mm-hmm.
Grosso modo, c'est une norme assez complexe qui fait en sorte que la personne, avant de faire une plainte, elle va y penser deux fois avant d'appeler parce qu'elle n'est pas certaine de dire les bonnes choses.
Mm-hmm.
Alors, à ce moment-là, je pense que souvent, les gens vont attendre peut-être que le signal ne fonctionne pas. Et aussi, c'est sûr que quand les gens sont habitués à leur intersection, alors s'il y a une défaillance, par exemple, peut-être au niveau d'un des boutons d'appel où le localisateur ne fonctionne pas, il va peut-être attendre que les deux localisateurs ne fonctionnent pas avant vraiment de faire la plainte.
Mm-hmm. Et moi, ce que je me demandais, là, c'est que justement, il y en a qui ne fonctionnent pas, tout ça, mais moi, comment je fais pour savoir, premièrement, qu'il y a des signaux? T'sais, dans le sens, j'ai un handicap visuel, je veux savoir qu'il y a des signaux. Comment je fais pour savoir? C'est où? C'est diffusé, l'information? Comment qu'on peut rejoindre des gens qui ont une cécité, finalement?
Exemple, nous, à la Ville de Québec, ça a pris du temps, là, mais depuis 2022-2023, sur une page de la Ville de Québec, il y a une page dédiée aux signaux sonores. Et là, à ce moment-là, tous les signaux sonores qui sont installés sont définis avec l'intersection, la direction, etc.
De là, pourquoi la recommandation pour la ville? Parce qu'après ça, même si on me dit à cet endroit-là, il y a c'est sécuritaire, il y a des signaux et j'arrive et il n'y en a pas. Ou bien, il ne faut pas qu'il n'y en a pas, mais ou qu'il ne marche pas. Donc, de là, la recommandation que ça soit un entretien régulier. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations?
Oui, il y avait certaines recommandations aussi sur la qualité de l'expérience, finalement, pour l'usager.
Oui.
Notamment, d'allonger le temps de traversée à certains endroits.
Des fois, c'est tellement rapide, ça se peut pas, là.
T'as
à peine le temps de faire la moitié de la rue, puis...
C'est ça. Donc, ça allait vite. Oui. Puis en plus, ça déclenche
un stress.
Le stress. C'est le rythme aussi du feu accélère. Donc, ça donne, envoie le signal que c'est la fin du monde.
Mais oui.
Donc, ça fait partie des recommandations qui vont avoir aussi un impact sur l'ensemble de la population.
Complètement.
Finale.
Complètement. Je fais juste imaginer où c'est habité à côté et entendre ça constamment. On dirait vraiment qu'il va y avoir une bombe qui va exploser.
Oui.
OK. Et ces recommandations, tout ça, là, les recommandations, c'est à qui que vous adressez ça?
Oui, on a rencontré la ville, en fait, avant la publication du rapport.
Okay.
Donc, c'est eux qui maîtrisent ces processus-là. C'était les premiers interlocuteurs à qui on voulait parler.
Ouais.
On a pu aussi ajuster nos recommandations en fonction de leur réalité là, qu'ils nous ont partagée, parce qu'on voulait que ce soit le plus réaliste possible aussi et applicable. Puis on a eu une bonne réaction, donc il y a déjà des choses sur lesquelles ils vont se pencher sérieusement, et des choses que ça va être à plus long terme également, mais ça démontre aussi qu'on c'est pas du laisser-aller de leur côté, là. C'est pas ça, c'est plus que il manquait ces données-là, on est allé les chercher et on va pouvoir graduellement améliorer la situation, mais main dans la main. Là.
Oui. Et cette étude-là, est-ce que c'est disponible pour monsieur, madame, tout le monde?
Oui, absolument. Sur notre site Internet, si les gens font rphg0312.org, ils vont trouver l'étude. Là.
OK. Donc, vraiment, là, le 0312, là, que dans le fond, au lieu d'écrire Québec, Chaudière-Appalaches, on écrit ça et ça nous amène directement à Québec.
Oui, en googlant qu'il y a vraiment des personnes à RPHV032 ou RPHV Québec, Chaudière-Appalaches, c'est sûr qu'en googlant ça, les gens vont le trouver aussi.
OK, donc le site Internet, on retrouve l'étude et on peut retrouver aussi plein d'informations là, au niveau du regroupement. Là. C'est comme une bible de ressources là, pour les gens du coin. Là.
Ouais, si on veut.
Ben merci infiniment à vous deux, ça a été un grand plaisir. Et puis ben moi je vous remercie d'avoir été à l'écoute, mes beaux invités, Chloé Pelham, cette belle jeune adolescente, très très heureuse de l'avoir reçue. Merci Juliane Perrault et René Binette. Et on se retrouve la semaine prochaine. Oh, merci Mathieu à la mise en onde, Mathieu Tessier, mon collègue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre Mission Vision. Bye bye tout le monde.